Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la démonologie. Cette série est une continuation de séries précédentes que j'ai fait il y a quelques années de cela, mais donc c'est un complément très important. Nous arrivons à l'étude numéro 13 et le titre sera « La délivrance des satanistes ». Le satanisme dans certains pays, c'est un problème qui ne va pas se régler comme cela. Cela a pris des proportions qui vont bien au-delà de ce que la presse a pu décrire. Chaque ville, chaque cité ont des loges ou des groupes de personnes qui adorent et qui servent directement Satan. Dans presque chaque collège et chaque lycée, il y a un groupe de satanistes. Et même dans un certain nombre d'établissements chrétiens. En outre, certains pays sont envahis par des religions orientales qui sont aussi une sorte de forme satanique, ainsi que par les sectes d'origine égyptienne ou antillaise, comme la religion Santeria, tout cela n'est que du satanisme sous diverses formes. Toute religion qui adore et sert des démons est une forme de satanisme, quel que soit le nom qu'on leur donne aux démons, tels que les énergies, les vibrations, les dieux païens, des êtres spirituels, etc. Au cours d'un grand congrès de la police qui s'est tenu en février 1986 à Las Vegas, on a estimé qu'il y avait eu aux États-Unis entre 40 et 60 000 crimes rituels. Vous avez bien entendu. Et il paraît qu'aujourd'hui, cela dépasse les 80 000 crimes rituels, c'est-à-dire des sacrifices humains. Personnellement, je considère cette estimation comme étant bien au-dessous de la réalité. Les articles que la presse a fait, et qu'elle a fait paraître dernièrement sur les sacrifices humains de Matamoros au Mexique, deviendront bientôt des faits divers quotidiens dans nos médias. Partout, les responsables de la sécurité publique commencent à former les fonctionnaires de police dans le domaine des crimes ayant une relation avec l'occultisme. Psychologues et psychiatres organisent des congrès pour tenter d'apprendre eux-mêmes comment traiter les personnes qui sont impliquées dans le satanisme. Les violences rituelles sur les enfants, cela, c'est une monnaie, on peut dire une monnaie courante de nos jours. Les stars de rock, ainsi que leurs disques, prônent ouvertement chaque jour le satanisme dans leurs concerts, dans tous les magasins de musique et sur toutes les chaînes spécialisées de la télévision. Quand vous voyez, et je ne veux pas les nommer, certains chanteurs de rock ou des chanteurs similaires à ces musiques avec des synthétiseurs, etc. et vous les voyez portant même parfois des grandes croix sur la poitrine, donc avec une chaîne autour du cou, donnant l'impression qu'ils sont religieux, qu'ils appartiennent à Christ. Eh bien, c'est tout à fait le contraire. Voyez-vous, c'est incroyable, mais vrai. Bien sûr, je comprends que vous qui écoutez maintenant, tout cela vous semble invraisemblable. Il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus fort pour proclamer que nous devons absolument arrêter le développement du satanisme chez nos adolescents. Hélas, le monde qui nous entoure, de même que de nombreux chrétiens, se tourne vers les psychiatres et les psychologues pour avoir des solutions. La plupart ne réalisent pas que c'est justement chez les psychiatres et les psychologues qu'il y a probablement le plus grand pourcentage de satanistes actifs, plus que dans tout autre secteur. Évidemment, nous n'avons pas le droit de mettre tout le monde dans le même panier, comme on dit, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il y a des psychologues et des psychiatres sérieux, heureusement. Les pères fondateurs de toute la psychologie étaient eux-mêmes profondément engagés dans l'occultisme. Chers amis, il faut que nous retournions attentivement à la sainte parole de Dieu pour y trouver des solutions. Jésus a prédit d'avance que ces choses arriveraient de même que l'apôtre Paul et bien d'autres. Nous sommes donc dans les derniers temps, c'est évident. Tous ceux qui ont fait des études approfondies de la parole de Dieu et tous ceux qui ont fait de la théologie sérieuse savent que nous avons entamé la dispensation des jugements, que le temps de la grâce touche à sa fin. C'est pour moi qu'il dit. Dans la seconde épître à Timothée, l'apôtre Paul donne une description très exacte des jours que nous vivons actuellement. Il est dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et ayant l'apparence de la piété, avec des croix autour du cou, mais reniant ce qui en fait la force. 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Ce court passage décrit parfaitement la nature de tous ceux qui adorent et qui servent Satan. L'apôtre Paul poursuit du reste en disant au chapitre 3, versets 12 à 17, donc 2 Timothée, vous avez compris, chapitre 3, versets 12 à 17, « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de ce qui tu les as appris dès ton enfance. Tu connais donc maintenant les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut, et cela par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture sainte est donc inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, versets 12 à 17. J'ai pris cela dans ma version allemande, mais rassurez-vous, c'est tout à fait pareil chez vous. Je crois que à partir, écoutez bien, de 2018, les églises chrétiennes seront directement et ouvertement attaquées par les satanistes. En Caroline du Sud, un évangéliste a lu un journal local, il a lu ceci. Il y avait en première page la photo d'une petite église chrétienne locale. Or, sur toute la face de l'église était écrit en grandes lettres ces mots avec de la peinture noire: Satan est Dieu. Cela ne tardera pas, et ceux qui parmi nous servent Jésus-Christ devront affronter tous ceux qui servent Satan dans une confrontation directe. 6 églises, et maintenant il y en a beaucoup plus, dans des régions comme le Texas et de l'Oklahoma, qui connaissaient personnellement et qui ont dû fermer leurs portes à cause des menaces qui ont été lancées par les satanistes de la région. Ni les pasteurs, ni les membres de ces églises n'avaient pu supporter les menaces de mort qui leur avaient été directement adressées. Ce même évangéliste a aussi parlé d'une église du Texas dont le pasteur avait été contacté par le grand prêtre de la loge satanique locale. Ce dernier exigeait, vous avez entendu, il exigeait que le pasteur lui laisse l'utilité des bâtiments de l'église pour les incantations diaboliques. Le pasteur répondit au grand prêtre qu'il ne lui laisserait pas utiliser les bâtiments. Eh bien, il reçut immédiatement une menace de mort. Le pasteur répondit: que je sois vivant ou mort, je servirai Jésus. Je ne crains pas la mort. Vous n'utiliserez jamais ce bâtiment. Or, environ 2 semaines plus tard, les satanistes pénétrèrent, écoutez bien cela, pénétrèrent de force dans l'église et sacrifièrent un bébé sur l'estrade devant toute l'église. Ils profanèrent les bâtiments, ils abandonnèrent le cadavre du bébé dans l'église et ce furent les membres de l'église qui ont dû l'enterrer. Oui, vous pouvez croire cela ou pas, libre à vous, mais croyez-moi, c'est vrai. Et il y aura de plus en plus des choses comme ça. Et malgré cela, le pasteur et certains membres de l'Église sont restés fidèles à Jésus-Christ. Or, le résultat a été qu'un réveil, un grand réveil, a éclaté dans cette ville environ 3 semaines plus tard, parce que tous les membres sérieux de cette Église ont prié des heures et des heures en se relayant jour et nuit, et que de nombreuses personnes, oui, de nombreuses personnes et du Sud ont été vraiment sauvées. De nombreuses personnes ont été sauvées. On peut dire Alléluia. Une église de la Caroline a dû fermer et plusieurs membres ont péri dans d'étranges accidents. Ils avaient reçu des menaces de la part des satanistes locaux. Je crois que de telles choses deviendront très fréquentes au cours des 4 ou 5 prochaines années. J'espère que vous avez bien entendu. Seul le Seigneur peut aider ces personnes à guérir de toutes ces terribles blessures qu'elles ont reçues. Notez 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, où il est dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. » 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. La seule solution à apporter au satanisme et aux crimes accomplis par les satanistes réside dans la puissance de l'évangile de Jésus-Christ et dans l'œuvre parfaite qu'il a accomplie au calvaire. J'applaudis aux efforts de la police, mais elle est sérieusement bloquée par 2 choses. Tout d'abord, la police ne croit pas tellement à la réalité d'un monde spirituel, ni que la puissance des satanistes soit vraiment une réalité. En second lieu, elle ne peut absolument pas apporter la moindre solution à ces problèmes sans la puissance de Jésus-Christ, ni le discernement du Saint-Esprit. Nos prisons sont à un tel point remplies de satanistes et de criminels aguerris, même en Europe, et selon un récent documentaire de la télévision, aussi bien en Europe, écoutez, les prisons sont tellement remplies par la plupart des criminels, et ils sont souvent remis à la rue, après quelques jours d'incarcération seulement. Pourquoi cela? Mais pour la simple raison qu'il n'y a pas du tout assez de place dans les prisons pour les recevoir tous. Qu'est-ce que le monde peut donner comme solution à ce terrible problème? Il est temps, chers amis, que nous, chrétiens, nous devons nous lever et que nous commençons à obéir au commandement de Christ, c'est surtout d'annoncer l'évangile à tout homme, mais avec puissance. C'est là le cœur du satanisme. Ils veulent tous la puissance. Or, tous ceux qui s'y engagent ne le font que dans un seul but, c'est avoir de la puissance. Cela est aussi vieux que le jardin d'Éden. Pourquoi Adam et Ève ont-ils désobéi à Dieu? Parce qu'ils pensaient qu'ils obtiendraient une connaissance spéciale, et de ce fait, il recevrait la puissance de devenir semblable à Dieu lui-même. La rébellion est au cœur de tous ceux qui sont engagés dans le satanisme. Et c'est également vrai de tous les satanistes qui ont fait l'objet de violences. Quelles que soient les violences qu'ils ont subies, ou quelle que soit leur passivité apparente, chacun d'entre eux a dans son cœur une rébellion tellement forte que cela me plonge sans cesse dans la stupéfaction. Il est dit en 1 Samuel, chapitre 15, verset 23, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. » 1 Samuel 15, verset 23. Nous devons tous lutter contre cette tendance à la rébellion, mais surtout ceux qui sortent du satanisme. Rappelez-vous que la passivité, c'est la pire forme de rébellion. Dieu haït la passivité beaucoup plus que toute autre chose. Il l'a clairement déclaré dans Die Offenbarung, donc dans Apocalypse chapitre 3, dans la lettre à l'église de Laodicée. Il est dit « Parce que les Laodiciens étaient tièdes, c'est-à-dire passifs, le Seigneur a dit qu'il les vomirait de sa bouche. » Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. Les reproductrices, c'est-à-dire ce sont des femmes qui sont obligées de concevoir des enfants qui étaient destinés à être sacrifiés. Or, elles avaient choisi la passivité comme forme de rébellion. Elles avaient refusé de faire quoi que ce soit pour résister aux terribles péchés que on leur demandait de commettre. Voici ce que dit un pasteur qui aide des personnes qui désirent être délivrées. Il n'est pas facile de travailler avec ceux qui sortent de l'occultisme. J'ai commis à peu près toutes les erreurs qu'il était possible de faire. Je dois avertir les chrétiens qui travaillent dans ce domaine de deux problèmes très sérieux qu'ils rencontreront. Le premier problème, c'est le fait que la plupart des gens cherchent à faire un tour gratuit. Je veux dire par là qu'ils veulent que quelqu'un combattent pour eux et leur fournissent tout sur un plateau. La plupart de ceux qui ont pratiqué l'occultisme l'ont fait tout d'abord parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient obtenir beaucoup sans trop d'efforts. J'ai appris à mes dépens qu'il est nécessaire de bien limiter à l'avance le temps que vous passerez à aider et à soutenir quelqu'un. Voyez-vous, vous ne pouvez pas, chers amis, aider quelqu'un indéfiniment. En outre, tant que vous aidez et vous soutenez quelqu'un, cette personne en général ne fait pas beaucoup d'efforts pour agir elle-même. L'apôtre Paul aborde directement ce problème dans 2 Thessaloniciens. Il dit « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent absolument pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain et en travaillant paisiblement. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 jusqu'au verset 12. Le second problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui prétendent être d'anciens satanistes ou qui prétendent avoir subi des violences rituelles dans leur enfance. Ça, c'est un problème qui grandira certainement à mesure que la presse parlera du satanisme. Ces personnes viendront demander qu'on les soutienne et qu'on leur accorde de l'attention. Je suis parfois stupéfait de voir tout ce qu'elles peuvent apprendre par leur lecture et par les démons qu'elles permettent d'entrer en elles, simplement par le fait qu'elles prétendent avoir été démonisées ou avoir été des satanistes. Parfois le Seigneur semble les empêcher de discerner leurs problèmes. Je suppose qu'il agit ainsi pour que ces personnes puissent avoir pleinement la possibilité d'être sauvées. Cependant, dans le long terme, ces personnes manifesteront qu'elles ont été séduites en refusant de travailler ou en cherchant constamment à attirer l'attention la plupart du temps en simulant des maladies ou des attaques démoniaques. Aucun serviteur de Dieu n'est à l'abri de tels problèmes. Tous les ministères peuvent être infiltrés par Satan. Je peux affirmer que ces personnes dont je viens de parler sont la cause de souffrances et de problèmes indicibles. Mais je ne permets pas à l'amertume d'entrer en moi. Je dois toujours me rappeler que Jésus-Christ est même de telles personnes. Il y a ensuite la crainte. Les chrétiens doivent toujours comprendre que ceux qui sortent véritablement du satanisme sont dominés par la crainte. La crainte, c'est l'arme numéro un de Satan. Le royaume de Satan est gouverné par le principe d'une compétition absolue. Les satanistes ne font confiance à personne, c'est à chacun pour soi. Ils ne coopèrent avec les autres que s'ils sont obligés de le faire par des démons, par le moyen de la crainte. Le monde du satanisme est aussi un monde de mensonges. Les satanistes sont des menteurs et des acteurs accomplis. C'est leur seule manière de survivre. Quand ils quittent le satanisme, ils sont extrêmement craintifs et habituellement menteurs. Cela leur prend du temps pour comprendre que la puissance du Seigneur est plus grande que toute la puissance de Satan et de ses démons. Cela leur prend aussi du temps pour perdre complètement leur habitude de mentir au sujet de presque n'importe quoi. Cela demande beaucoup d'amour, de patience et d'endurance de la part des chrétiens qui s'efforcent de les aider. Ceux qui sortent du satanisme n'éprouvent pas rapidement une profonde conviction de péché. Ô notre Seigneur est tellement miséricordieux et compatissant. Il sait très bien que ces personnes deviendraient folles s'il leur montrait clairement le caractère horrible de leur action. À mesure que ces personnes grandissent et se fortifient dans le Seigneur, le Saint-Esprit leur donne la conviction de péché nécessaire. Si nous sommes des chrétiens qui travaillent avec ces personnes, nous devons comprendre qu'elles ont vécu des choses tellement épouvantables qu'il ne leur est pas possible de se laisser rappeler, de se rappeler toutes en une seule fois. Il est donc normal pour des personnes sortant du satanisme d'éprouver d'importantes amnésies, oui, des oublis. Une délivrance totale n'est en général pas possible, surtout dès la première fois, parce que il y a beaucoup trop de choses dont ces personnes ne se souviennent plus. Cela paraît incroyable, mais c'est absolument vrai. Ceci est particulièrement vrai pour les divers implants qui ont été placés dans leur corps, des objets divers insérés sous la peau ou dans la chair, ou pour tout ce qui touche aux actes sexuels, les actes sexuels rituels. Nous sommes de faibles êtres humains et notre intelligence a des limites. Notre Seigneur le sait très bien. Il ne nous oblige pas à porter des fardeaux qui seraient trop lourds pour nous. Lorsque ces personnes se fortifient et se sentent plus en sécurité en Christ, il leur rappelle alors de plus en plus de souvenirs enfouis qui sont en eux. Et il a été observé que ceux qui sortent du satanisme ont besoin au moins une année pour se stabiliser. Pendant cette année, le Seigneur leur rappelle de plus en plus les cérémonies et les contrats auxquels ils ont été participés. Il est alors très important, lorsque toutes ces choses sont mises en lumière, qu'elles soient confessées en tant que péché et que les personnes demandent au Seigneur de leur pardonner et de les purifier. Beaucoup de choses sont guéries en nous quand nous nous repentons et quand nous confessons nos péchés. Ces personnes sont des brebis blessées dans le troupeau du Seigneur. On doit en prendre soin avec une douce fermeté et beaucoup d'amour. Mais il n'est pas nécessaire de connaître le nom de tous les autres démons qui se trouvent dans ces personnes. Vous ne devez pas demander aux démons de donner eux-mêmes leur nom. Demandez à la personne de vous parler de sa vie et ne cherchez qu'elles peuvent être cherchées sérieusement, qu'elles peuvent être les portes d'entrée qui ont été ouvertes aux démons. Donc, pour pratiquer cette délivrance, il vous faudra examiner 5 domaines très particuliers. Écoutez bien. Premièrement, il y a les esprits familiers. Deuxièmement, il y a les pactes de sang. Troisièmement, il y a les pratiques sexuelles associées à un rite satanique. Quatrièmement, il y a les implants. Et cinquièmement, il y a les portes d'entrée. Prenons le cas numéro 1, Marie. Un cas très sérieux. Marie avait 21 ans lorsqu'elle a quitté le satanisme et qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Voici son histoire. La mère de Marie était dans le satanisme et y avait même atteint une position élevée. Elle avait épousé un sataniste, mais tous les deux se séparèrent et divorcèrent un mois avant la naissance de Marie. Le père de Marie était considéré comme étant retardé mental, bien qu'il fût capable de travailler. Il n'a jamais atteint une position quelconque dans le satanisme. Il a quitté la mère de Marie pour aller avec une autre sorcière du même groupe. À la naissance de Marie, Satan dit à sa mère que Marie serait retardée mentale comme son père. Hélas, la mère de Marie accepta sans aucune hésitation ce mensonge de Satan. Il est intéressant de remarquer que Marie, peu après sa naissance, elle fut consacrée non seulement à Satan, mais également à Jésus-Christ. Ceci s'explique par le fait que sa mère, au moment de la naissance de Marie, occupait une position importante dans l'Église chrétienne où elle s'était infiltrée. Savez-vous, il est dit, les loups dans la bergerie. Je ne doute absolument pas que le Seigneur ait pris au sérieux cette consécration. Il l'a démontré en attirant Marie à lui 21 ans plus tard. À l'âge de 4 ans, Marie fut amenée par sa mère à une réunion sataniste spéciale. Elle y signa son premier pacte de sang et elle vendit son âme à Satan. Marie se rappelait très bien que lorsque elle a eu signé ce pacte, Satan lui apparut et plaça en elle un démon nommé Cromer. Satan lui dit que ce démon lui permettrait de simuler un retard mental, ce qui lui ferait obtenir ce qu'elle voudrait, tout ce qu'elle voudrait de sa mère. Il est triste de dire que Marie se servit à la perfection de ce démon au cours des 17 années suivantes. Marie est en réalité une fille très, très intelligente, mais elle échoua continuellement dans tout ce qu'elle faisait à l'école. Tous les tests psychiatriques qu'elle a eu à passer ont établi qu'elle était mentalement retardée et elle réussit même à convaincre tout le monde qu'elle était effectivement une retardée mentale. À présent, elle doit affronter la vie pratiquement sans aucune instruction et avec peu de choses pour trouver du travail. La mère de Marie l'amenait à certaines réunions satanistes, mais la tenait à l'écart de la plupart des réunions, craignant toujours que Satan puisse exiger qu'elle soit sacrifiée. Marie fut donc une enfant incroyablement gâtée. Personne ne lui disait jamais non, pas même ses grands-parents. Elle avait tout ce qui pouvait être acheté avec de l'argent. Ses grands-parents s'efforçaient de compenser en gâtant Marie tout le mal qu'ils avaient fait à sa mère lorsque elle était enfant. Elle n'avait pratiquement jamais été disciplinée. Lorsque Marie a atteint l'âge de 11 ans, sa mère a quitté le satanisme et elle a accepté Jésus-Christ. Ce fut à ce moment-là que les problèmes ont commencé. Comme il est de règle pour ceux qui quitte le satanisme. La mère de Marie perdit tout ce qu'elle avait acquis. Elle finit aussi par déménager dans un autre état, loin des grands-parents. Soudain, Marie découvrit qu'elle n'était plus un objet d'adoration pour sa mère et qu'un autre avait pris sa place dans la vie de sa mère, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et Marie se mit donc à haïr Jésus de tout son cœur, ainsi que de tous les chrétiens qui aidaient sa mère. Elle se rebellait continuellement contre tous et contre tout. Après avoir déménagé dans un autre état, Marie resta cependant en contact avec la grande prêtresse qui avait pris la place de sa mère. Elle travailla avec cette femme jusqu'à l'âge de 21 ans. Marie se joignit donc aux enfants qui étaient dans le satanisme dans toutes les écoles qu'elle fréquenta. Elle participa fréquemment à des sacrifices d'animaux. En grandissant, elle assista également à des sacrifices humains. Elle a gravi les échelons du satanisme, tout comme sa mère l'avait fait avant elle. Marie fut donc aussi formée à pratiquer la lecture des lignes de la main, ainsi que la lecture des tarots. Elle entraîna de nombreux jeunes dans le satanisme en leur apprenant à jouer avec la planchette divinatoire Ouija. Elle était fascinée par l'astrologie à laquelle elle se soumettait fidèlement. À l'âge de 17 ans, elle a joint un gang qui l'a entraînée rapidement à se droguer, à boire beaucoup d'alcool et avoir surtout de multiples relations sexuelles. Elle en remontrait même aux autres jeunes en maudissant Dieu chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Donc, à l'âge de 17 ans, elle a aussi eu un enfant sans être mariée. Sa mère ne lui permit pas d'avorter. Parce qu'elle était mineure, elle l'obligea donc à se séparer de son bébé et à le faire adopter par une famille correcte. Heureusement que sa mère a pris cette décision, car Marie aurait probablement dû offrir cet enfant en sacrifice si on le lui avait permis de demander et de le garder. Donc c'était assez curieux tout cela et dangereux. Marie n'était pas autorisée à écouter de la musique rock, mais elle l'écoutait constamment quand elle n'était pas à la maison. Alors à l'âge de 18 ans, après la naissance de son bébé, Marie retourna visiter ses grands-parents. Et elle est allée aussi visiter son père. Mais elle a eu alors des relations sexuelles avec son propre père. Voyez-vous, Marie mentait totalement à propos de tout ce qu'elle faisait. Elle était particulièrement avide de tous les films occultes, des films d'horreur qu'elle pouvait voir. Elle jouait aussi aux jeux de rôle, Donjons et Dragons,
et à des jeux vidéo occultes. Finalement, à 19 ans, après avoir achevé ses études dans un lycée spécial pour retardés mentaux, Marie fut renvoyée chez ses grands-parents par sa mère parce que celle-ci ne pouvait plus la garder chez elle. Marie tenta à plusieurs reprises de tuer sa mère, à la fois physiquement et par la sorcellerie. Elle continuait à croire que Satan était beaucoup plus fort que Jésus-Christ, malgré tout ce que sa mère disait ou faisait pour tenter de la persuader du contraire. Marie haïssait donc par-dessus tout sa mère, lui reprochant d'avoir quitté le satanisme en provoquant ainsi tant de changements dans leur vie. Une fois que Marie fut retournée dans sa région natale, sa formation pratique a commencé réellement, et cela dans une loge satanique. Elle a reçu un autre esprit guide très puissant, appelé Malachi, et un démon de puissance, ou démon portier, nommé Gosser. C'est Marie elle-même qui pouvait donc choisir. Elle choisit de devenir ce que l'on appelle une chasseresse, c'est-à-dire une tueuse professionnelle. On lui apprit à se servir de toutes sortes d'armes, de fléchettes empoisonnées, de poignards, d'épées, etc. Elle a même commencé à apprendre les arts martiaux, le kung-fu et le karaté. Cependant, elle était bien trop paresseuse pour suivre avec persévérance un quelconque entraînement physique rigoureux. Aussi se contenta-t-elle d'inviter, oui, on peut dire en elle, à la place de tant de rigueur, elle a invité divers démons puissants. En outre, elle se droguait et elle trafiquait de la drogue. Marie refusa donc de travailler et elle fut placée dans un organisme gouvernemental qui s'occupait spécialement des retardés mentaux. Elle fut suivie par deux psychiatres qui travaillaient pour l'État, mais qui étaient en réalité des satanistes. Ces deux hommes lui ont appris beaucoup de choses dans les sciences occultes, surtout dans le domaine de l'hypnose, de la projection astrale et du yoga. Elle vivait donc dans un foyer collectif géré par l'État. Ceci ne gênait aucunement ses activités, car la plupart de ceux qui travaillaient dans le service social de cette région étaient, hélas, des satanistes qui appartenaient à la même loge qu'elle, une loge très importante. Et ce fut au cours de cette période de 2 ans qu'elle participa de plus en plus à des sacrifices humains accompagnés de cannibalisme, ainsi qu'à de fréquents sacrifices d'animaux, et finalement, à l'âge de 21 ans, on lui donna une mission importante. On lui promit, si elle réussissait, on lui promit la position de grand prêtresse dans une loge locale, mais si par contre elle échouait, ce serait la mort. En réalité, Marie était une perdante dans le satanisme comme dans la vie courante. Elle ne parvint jamais à aller jusqu'au bout de sa formation de sataniste à cause de sa paresse et elle était beaucoup trop dissipée. En allemand, on dit « zerstreut ». elle cherchait toujours la solution de facilité et voulait toujours faire un tour gratuit. Elle fut donc envoyée en Californie dans le but d'infiltrer le ministère d'un pasteur et de le tuer. Voici donc le témoignage de ce pasteur. Sur l'ordre du Seigneur, ce pasteur reçut Marie chez lui. Après avoir passé 2 semaines dans notre maison, elle craqua et elle confessa toute la machination qui avait été montée contre lui. Elle comprit que la puissance de Jésus était beaucoup plus forte et qu'elle n'arriverait jamais à tuer ce pasteur. Elle craignait pour sa propre vie, avec raison. Juste avant d'être envoyée chez lui, elle avait été forcée d'assister au meurtre brutal d'un jeune homme de 17 ans qui malheureusement avait échoué dans une mission semblable qui lui avait été confiée par son groupe satanique. On lui avait dit que si elle ne parvenait pas à tuer ce pasteur, elle aussi serait sacrifiée de la même manière. Parce qu'elle craignait pour sa vie, Marie accepta de donner sa vie à Jésus-Christ et à abandonner ses démons. Cependant, sa marche fut très, très difficile. Elle continue même maintenant à être très paresseuse et rebelle. Marie refuse tout simplement de travailler ou de prendre en charge. Elle ne peut pas se prendre en charge elle-même, car elle est flemmarde, paresseuse. Elle ne veut pas servir Jésus comme il le lui demande. Elle veut toujours en faire à sa propre tête. Marie a vécu avec le pasteur et sa famille pendant 6 semaines. Ensuite, le pasteur l'a obligée à déménager et à chercher du travail. Le combat pour l'âme de Marie continue toujours. Mais voici de quelle manière nous avons abordé sa délivrance initiale. Voyez-vous, outre la liste des portes d'entrée que je viens de décrire, j'ai demandé, c'est le pasteur qui parle, j'ai demandé à Marie de faire une liste des démons qu'elle connaissait bien et avec lesquels elle avait travaillé fréquemment. Le Seigneur a montré à ce pasteur que les personnes profondément engagées dans le satanisme doivent chasser par leur nom tous les démons avec lesquels ils ont travaillé étroitement. Aussi, voici la liste de ces démons avec leurs fonctions. Il se peut que certains noms ne soient pas orthographiés correctement, car Marie ne s'était jamais intéressée à l'orthographe de ces noms. Tout ce qui comptait pour elle était de pouvoir les appeler par leur nom. Ces démons ne se soucient pas trop des noms qui leur sont donnés. Tout ce qui les intéresse, c'est d'entrer dans ces personnes et de les contrôler. Chers amis, ce serait beaucoup trop long aujourd'hui de continuer donc cette étude, car il y a beaucoup de choses encore à dire de très important. C'est pour cela que je vais continuer cette série demain, Dieu voulant, par le numéro 14. Et là, je vous parlerai de tous ces noms de démons avec beaucoup de prudence, mais je dois prier avant pour savoir si le Seigneur me permet de donner ces noms. On verra demain, après avoir prié. Seigneur, veuille bénir tous ceux qui écoutent. Veuille les bénir avec tout ton amour. Et maintenant, chers amis, avant de prier ensemble, le Seigneur m'a donné de vous transmettre quelque chose pour vous encourager. Oui, pour vous encourager. Et aussi pour votre instruction personnelle. Écoutez bien. Pour se révéler à l'homme, Jésus a habituellement recours à des moyens tout simples, à des occasions fortuites en apparence. On peut le rencontrer sur les chemins les plus ordinaires de la vie, pourvu qu'on ait des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Saint Marc chapitre 8, verset 18. Pas besoin d'un signe spécial, rien de spectaculaire. C'est dans le train-train ordinaire de l'existence qu'on rencontre le Seigneur pour connaître sa volonté, pour connaître son propos et ses directions. Et cela, à l'occasion de ce qui semble n'avoir aucune importance particulière. Pas besoin donc de parcourir des kilomètres, de chercher au loin, de vouloir d'abord parler en langue, selon 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2 à 19. Bien au contraire, voyez-vous, pensez un peu à tout cela et rappelez-vous nos rencontres fréquentes au bord du chemin. Ne donnez pas droit de citer à la maladie, car chaque fois que vous entretenez les autres de ce dont vous souffrez, eh bien vous contribuez à l'ancrer en vous davantage. Ignorez donc la maladie dans toute la mesure du possible. Reportez sur Jésus. Oui, reportez tout sur Jésus, le grand guérisseur. Ça, c'est votre prière habituelle. Et en le faisant, vous favoriserez votre guérison. Les disciples les plus fidèles se trompent souvent eux-mêmes en omettant d'attendre de Jésus la guérison et la perfection de l'être tout entier. Par ailleurs, ne demandez qu'une guérison physique. Cela trahit toujours une tendance à placer celle-ci au premier plan. Je répète, si vous demandez toujours que la guérison physique, cela trahit une tendance à placer celle-ci au premier plan, alors que la guérison du Seigneur est avant tout d'ordre spirituel. Demandez donc la guérison de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors, vous tendrez à la santé parfaite de l'être, quel que soit votre âge. Et maintenant, nous allons terminer par la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as encore daigné nous bénir et nous protéger pendant la nuit dernière. Tu as permis que chacun de nous fût à l'abri de tout danger. Nous nous prosternons devant toi en te rendant nos ferventes actions de grâce. Puissions-nous sentir véritablement quel est le prix des moments que tu nous accordes, afin que nous sachions en profiter pour chercher le salut que tu nous présentes et pour nous attacher au Sauveur Tout-Puissant et miséricordieux que tu nous as donné. Devenons sérieux et attentifs à nos seuls intérêts véritables, à l'avenir éternel de nos âmes, que nous apprenions à nous confier en toi avec un sentiment d'amour, d'espérance et de foi, tel que nous puissions ne plus rien redouter, que nous nous sentions en paix sous ta main paternelle, en paix sous cette protection divine qui peut seulement nous défendre de tout mal. Car les cheveux même de notre tête sont tous comptés, et pas un passereau ne tombe sur la terre sans ta permission. Ô notre Dieu, que ta main nous garde en éloignant de nous les tentations, que la grâce remplisse nos âmes, qu'elle nous fortifie dans l'accomplissement de tous les devoirs de cette journée. Daigne donc bénir nos chères familles et nos amis. Seigneur, exauce nos supplications et toutes celles que nous pourrions nous offrir et t'offrir maintenant encore au nom de notre divin Sauveur. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, car c'est une réalité, c'est vrai, et n'oubliez jamais une chose très importante. Même que vous savez que Dieu vous aime et que je vous aime de tout mon cœur, n'oubliez jamais que nous devons apprendre à prier les uns pour les autres très sérieusement, plus que jamais aujourd'hui, car les temps deviennent difficiles. Prions les uns pour les autres, s'il vous plaît. Et maintenant, je vous enlace tous avec tout mon amour et je vous embrasse. Soyez bénis et à demain, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.